Vous écoutez
RMC.
Il est pile 7h, vous êtes bien sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal, toute l'actualité, c'est avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Enfin de la simplification sur les bulletins de salaire. On va passer de 55 à 15 lignes sur nos fiches de paye dans le cadre d'un projet de loi sur la simplification administrative qui va être dévoilé là dans la matinée.
Moins de paperasse, moins de démarches, une loi pour tout simplifier. Est-ce que ça peut marcher? Est-ce que ça va rebooster l'activité? Je poserai la question au patron de la CPME, la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises. Il sera mon invité à 7h40.
Kenji Girac, tiré d'affaires. Selon son manager toujours hospitalisé à Bordeaux, l'enquête se poursuit 48 heures après sa blessure par balle. Et deux informations cette nuit aux États-Unis. D'abord, le Congrès qui a voté une aide de 61 milliards de dollars pour l'Ukraine. Et TikTok peut-être bientôt interdit chez les Américains.
Les bulletins de salaire vont donc bientôt évoluer, seront plus faciles à déchiffrer.
Oui, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, va présenter ce matin un projet de loi sur la simplification administrative, la bureaucratie à la française. On va enfin y comprendre quelque chose, une simplification qui commencera par le bulletin de salaire, Romain Cluzel.
Et le ministre de l'économie affiche son ambition. Bruno Le Maire souhaite passer de 55 lignes en moyenne sur un bulletin de salaire à une quinzaine, une manière de rendre les feuilles de paye plus lisibles et surtout plus compréhensibles. Alors comment l'exécutif compte-t-il s'y prendre? Eh bien, en regroupant de nombreuses lignes, par exemple le détail des cotisations patronales et des cotisations salariales. Il n'y aurait plus qu'un seul montant indiqué pour chaque catégorie au lieu du détail. Bruno Le Maire l'assure, l'entreprise aura toujours accès à ce détail des cotisations et un salarié pourra en prendre connaissance s'il le souhaite. Reste à confirmer cette simplification, d'abord au Parlement, puis dans les entreprises, parce que ce n'est pas la première fois que le gouvernement tente de réduire le nombre d'informations sur les fiches de paye. On compte 5 tentatives sur les 25 dernières années, jusqu'ici sans succès.
Le bras de fer se durcit dans les aéroports. Un nouveau préavis de grève est déposé pour début mai pour le pont de l'Ascension. En plus de la grève demain qui porte notamment sur les salaires, grève des contrôleurs aériens, les trois quarts des vols seront annulés. Bref, c'est un jeudi noir qui se profile, Nicolas Trénaud.
Oui, l'aéroport le plus fréquenté, Paris-Charles de Gaulle, tournera au ralenti. Seulement un avion sur trois décollera, comme à Marseille. Mais c'est à Paris-Orly que le mouvement social causera le plus de turbulences. Les trois quarts des vols ne seront pas assurés. De manière générale, il faut s'attendre à au moins 50% d'annulations dans chaque aéroport, indique la Direction Générale de l'Aviation Civile, avec une dernière exception, 60% de suppression à Nice et Toulouse-Blagnac. Les passagers concernés ont la possibilité de se faire rembourser. En revanche, aucune indemnisation n'est possible. Le versement de 250 à 600 euros prévu par le règlement européen en cas de grève ne s'applique pas dans le cas d'une grève des contrôleurs aériens. Aucune compensation n'est prévue par la loi pour les nuits d'hôtel ou les locations de voitures perdues. C'est aux voyageurs d'envoyer des réclamations ou de faire jouer les assurances liées à la carte bancaire.
Réponse cet après-midi pour les 230 salariés de l'usine Duralex dans le Loiret. Le tribunal de commerce d'Orléans va se prononcer sur la demande de placement en redressement judiciaire du fabricant de verre qui est en difficulté financière, subissant de plein fouet la crise de l'énergie. Il est 7h03 ce matin sur RMC. On a des nouvelles rassurantes de Kenji Girac, le chanteur qui est tiré d'affaires. Voilà ce que nous dit son manager 48 heures après avoir été blessé par balle sur l'aire de passage de gens du voyage de Biscarrosse. Dans des conditions qui sont encore floues, Pierre Bourgès, correspondant de RMC à Bordeaux, où le chanteur est hospitalisé. L'enquête se poursuit.
Oui, les enquêteurs ont pu auditionner la femme, la tante et l'oncle de Kenji Girac. Ils indiquent bien qu'il se serait fait cette blessure seul. D'après les témoignages, le soir de l'incident, le chanteur et sa femme seraient rentrés du casino vers 3h du matin. C'est quelques minutes plus tard qu'un coup de feu a blessé l'homme au niveau du poumon et de l'intestin. Kenji Girac n'est pour le moment pas en état d'être auditionné, mais il reste encore des zones d'ombre pour les enquêteurs. Pourquoi avait-il cette arme avec lui? Qu'est-ce qu'il voulait en faire? Pour le moment, il y a encore beaucoup d'incompréhension du côté des proches de Kenji Girac, admet Alban Travia, son co-manager. C'est en partie pour cette raison que la communauté des gens du voyage souhaite rester silencieuse pour l'instant.
Après Pointe-à-Pitre, après Béziers, c'est la ville de Nice qui va instaurer un couvre-feu pour les mineurs, pour les moins de 13 ans, dès le 1er mai, donc la semaine prochaine. Le maire Christian Estrosi l'avait plus ou moins annoncé hier matin sur RMC. Il l'a confirmé dans la journée face à la violence des jeunes, dit-il. L'opposition municipale à Nice crie au scandale. Question, tiens, ce matin, qu'en pensent les Niçois?
Ça éviterait beaucoup de choses, les sorties, les abus, la consommation d'alcool pour les mineurs, ce serait pas mal.
Je sais pas si vraiment ça aura un impact réel. 16 ans, ce sera pas respecté dans ces quartiers-là.
Ça va être juste
une couche de peinture en plus sur une façade déjà abîmée, en fait, je pense.
Voilà, les avis à Nice au micro de BFM Nice Côte d'Azur. Les deux informations de la nuit aux États-Unis. D'abord le Congrès, vous l'entendez. Le Congrès qui a validé 95 milliards de dollars d'aide, 28 milliards pour Israël après 200 jours de guerre à Gaza et 61 milliards pour l'Ukraine. Ils étaient très attendus après 2 ans de guerre. Remerciement immédiat cette nuit de Volodymyr Zelensky. Ça faisait 8 mois que des républicains bloqués aux États-Unis. Joe Biden promet des armes pour les Ukrainiens dès cette semaine au moment où Amnesty International, tiens, ce matin, nous dit que l'ordre mondial bâti en 1945 au sortir de la guerre est au bord de la rupture, accusant États-Unis, Israël d'un côté et Russie, Chine de l'autre. Tiens, à ce sujet, le Congrès américain, toujours cette nuit, a menacé, eh bien, tout simplement, de couper le réseau social chinois TikTok, source d'inquiétude, notamment de la part du FBI. Une loi, donc, a été adoptée cette nuit, Romain Hauguin.
Oui, c'est un ultimatum que lancent les États-Unis à TikTok, ou plutôt à sa maison mère chinoise, Biden, sans clair. Le message, c'est soit vous vendez le réseau social à des acquéreurs américains dans un délai d'un an maximum, soit TikTok sera tout simplement banni des États-Unis. Et c'est ce qui risque d'arriver. Biden s'a prévenu à plusieurs reprises qu'il s'opposerait à une vente forcée. Les opposants à TikTok, forcément, crient victoire. Eux accusent le réseau social d'être un cheval de Troie qui permettrait à la Chine eh bien, d'accéder aux données des Américains, compromettant ainsi la sécurité nationale des États-Unis et rendant au passage accro une partie de la jeunesse américaine. Pour TikTok, en tout cas, c'est un énorme coup dur. Aux États-Unis, c'est 170 millions d'utilisateurs, près de 2/3 des ados américains et près de 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière dans le pays.
C'est peut-être ce soir que Paris, en football, que Paris va remporter son 12e titre de champion de France de Ligue 1. Il y a 3 matchs décalés en Ligue 1 ce soir. En fait, ceux des clubs qui jouaient la Coupe d'Europe la semaine dernière. Évidemment, vous les vivrez sur RMC. Paris à Lorient, ce sera à 19h. Les Parisiens seront sacrés si Monaco ne gagne pas contre Lille à 21h dans la bataille pour le podium. Et à la même heure, eh bien, il y aura le choc de la Méditerranée entre Marseille et Nice. Les Marseillais qui carburent cette saison au Vélodrome, 3e meilleure équipe à domicile, Florent Germain.
Oui, l'OM a 2 visages cette saison. À l'extérieur, Marseille, méconnaissable, est devenue l'une des pires équipes du championnat de France. Au Vélodrome, c'est le contraire. L'OM n'a perdu qu'une seule fois cette saison, c'était face au PSG. Le défenseur Amir Mourinho reconnaît que lui et ses coéquipiers sont transcendés à domicile.
Sans aucun doute, quand on joue au Vélodrome, on a cette motivation en plus et ça se traduit sur les résultats à domicile. Il nous donne beaucoup de force et nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes dans notre stade.
Différence de niveau, voire d'attitude agace au sein du club marseillais. Et Jean-Louis Gasset ne trouve pas la solution. Les 2 matchs de suite à domicile en Ligue 1, Nice ce soir puis Lens dimanche, sont donc les bienvenus pour l'entraîneur olympien.
Quand on joue chez nous, il n'y a pas de passe droit. On est obligé d'aller au bout de nous-mêmes. On a un supplément d'âme et on fait ce qu'il faut, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe. Vu que chez nous, on a quand même fait de belles choses, j'ai beaucoup d'espoir.
Avant de penser à sa demi-finale de Ligue Europa la semaine prochaine, Marseille ne veut pas lâcher la Ligue 1. 2 succès consécutifs replaceraient l'OM dans les 6 premiers du championnat.
21h, le match de Marseille, 19h, celui de Paris. Tout ça, évidemment, sur RMC ce soir.
Quentin Vinet pour le journal sur RMC, il est 7h08.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Il est le numéro 3 sur la liste du Rassemblement National aux élections européennes. L'ancien patron de Frontex, les gardes-côtes européens, Fabrice Leggeri, est maintenant visé par une plainte pour complicité de crimes contre l'humanité et complicité de torture. Cette plainte, c'est vous qui l'avez déposée, maître Emmanuel Daoud. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur RMC. Vous êtes l'avocat de la Ligue des droits de l'homme et de l'association Utopia 56 qui se porte partie civile. Vous nous dites dans un instant de quels éléments vous disposez pour justifier cette plainte. A tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Vous êtes bien sur RMC et sur RMC Story. Très bon réveil, il est 7h10.
Le témoin RMC.
Le témoin du jour, c'est vous, Emmanuel Daoud. Bonjour et merci. Bonjour. De nous rejoindre en direct ce matin. Vous êtes donc l'avocat de la Ligue des droits de l'homme et de l'association Utopia 56 et 2 ONG qui portent plainte contre celui qui a longtemps dirigé Frontex, l'agence des gardes-côtes européens, Fabrice Leggeri, et qui est aujourd'hui le numéro 3 sur la liste du Rassemblement national aux européennes. C'est une plainte pour complicité de crimes contre l'humanité et complicité de torture, accusation très grave. Donc, de quels éléments disposez-vous ?
Ces éléments sont documentés par des rapports du bureau du procureur de la Cour pénale internationale, par un rapport qui a été mené par l'OLAF, qui est l'organisme européen qui lutte contre la fraude et qui s'est intéressé à la gestion de Monsieur Légéry pendant gestion qui a duré de 2015 à 2022. Et pour faire simple, l'on sait que des migrants ont été refoulés vers la Libye, interceptés par des gardes-côtes libyens, alors même que Frontex avait repéré les bateaux de ces migrants et a permis leur interpellation par les gardes-côtes libyens. Et en Libye, on sait ce qui se passe, à savoir des centres de torture, des endroits où on viole, des endroits où il y a des exécutions, des endroits où des migrants ont été tués. Ça, c'est pour la Libye. Par ailleurs, pour la Grèce, même chose, il y a eu des interceptions par des gardes-côtes grecs. Alors que Frontex devait assurer le non-refoulement des migrants, ces gardes-côtes grecs sont intervenus et ont refoulé hors des eaux territoriales grecques ces migrants vers la Turquie.
On connaissait ces éléments, ils étaient dans ce rapport de cet Office européen antifraude qui date de 2022, je crois.
Exactement.
Ce rapport. Mais à l'époque, les institutions européennes ont estimé qu'il n'y avait pas matière à poursuivre, qu'il n'y avait pas matière à ouvrir une procédure disciplinaire ni à livrer ces éléments à la justice. Ce que vous nous dites ce matin, donc, on le savait déjà. Pourquoi déclencher cette plainte maintenant, alors qu'on est en pleine campagne européenne ?
Alors, c'est vous qui le dites, qu'il n'y a pas de poursuite. On n'en sait strictement rien, puisque l'OLAF est en train de mener et de finaliser ses enquêtes. Nous, il n'y a pas d'agenda politique qui était mené par la Ligue des droits de l'homme ou Utopia 56. Il y a un travail très sérieux, très documenté qui a été fait. Ça prend du temps, ça prend des mois de rédiger une telle plainte. On a bien conscience de la gravité des accusations et l'agenda politique de Monsieur Légéry, à titre personnel, je m'en contrefiche. Ce qui est important, c'est de savoir ce que l'on peut faire pour assurer la protection des migrants, éviter que des dizaines de milliers d'hommes et de femmes et d'enfants soient refoulés et pour certaines d'entre eux, par milliers, il y ait des morts en Méditerranée.
Pardonnez-moi si vous m'y autorisez,
et que ces personnes soient refoulées vers des pays où ils risquent la mort. Et donc, de fait, il y a, entre le moment où on a pris connaissance de ces éléments et la date du dépôt de la plainte, il y a du temps qui est passé. Mais quand il s'agit de dénoncer les crimes les plus graves, crimes contre l'humanité, crimes de torture, je vous rappelle que c'est pour le crime contre l'humanité, c'est imprescriptible. Donc, dans notre droit positif, on peut agir quand on veut. C'est ce que nous avons fait. Et il appartiendra à la justice pénale française de déterminer si M. Légéry est ou non complice par abstention d'avoir facilité. Et n'oubliez pas une chose, il a aussi dissimulé ces éléments aux États membres et il a aussi dissimulé ces éléments en caviardant des rapports à l'officier des droits fondamentaux parce que s'il avait fait son travail comme directeur général de Frontex, le résultat, monsieur, serait été le suivant. Il y aurait eu la fin de la coopération de Frontex, par exemple, avec la Grèce. C'est de façon délibérée qu'il a prêté aide et assistance.
Sauf que de fait, Maître Daoud, vous vous immiscez dans cette campagne des Européennes, puisqu'il, depuis, il est candidat numéro 3 sur la liste du Rassemblement national. On est à un mois et demi des élections. Cette plainte qui pourrait déclencher rapidement l'ouverture d'une enquête, d'une information judiciaire, elle va forcément s'immiscer dans cette campagne électorale.
Mais vous savez, moi je suis avocat, je ne suis pas militant politique. Mon propos, c'est de voir si oui ou non des crimes ont été commis. La réponse que nous apportons est oui, et il appartiendra à la justice de déterminer. Ce n'est pas la première fois.
Lui parle de manière de manœuvre politicienne.
C'est sa réponse. J'ai entendu les réactions qui ont été celles du Rassemblement national. Quand on parle de harcèlement judiciaire, à ma connaissance... Un harcèlement, ça veut dire des procédures multiples. À ma connaissance, il n'y a qu'une seule plainte qui a été déposée. Peut-être d'ailleurs qu'il faudrait poser la question aux personnes qui ont tenu ces propos pour savoir si M. Légéry a été l'objet d'autres actions judiciaires. Parce que, à ma connaissance, c'est la seule action judiciaire, en tout cas pénale, qui a été menée contre l'intéressé.
Vous parliez des réactions au Rassemblement national. Jordan Bardella, qui est donc la tête de liste et le président du parti, estime que Fabrice Légéry est la victime d'ONG d'extrême gauche, pro-migrants et complice de trafic d'êtres humains. Qu'est-ce que vous répondez à cette accusation ?
On est dans la caricature et l'outrance, et moi je ne vais pas me hisser ou m'abaisser à ce niveau. Si j'avais l'ironie facile, je dirais qu'il semble que Madame Le Pen a l'air plus préoccupée par la santé de ses chats que d'avoir d'héberger sur sa liste quelqu'un qui pourrait être condamné par la justice française pour avoir laissé faire des refoulements, des crimes de torture, des gens qui ont perdu la vie, des gens qui ont été esclavagisés. Vous avez certains de vos confrères de chaînes américaines qui ont mis en évidence que des migrants refoulés vers la Libye se sont retrouvés dans des marchés aux esclaves, qui ont mis en évidence que des femmes qui se trouvaient sur ces bateaux ont été vendues comme esclaves sexuels. Ça, c'est grave, monsieur. Et monsieur Légéry le savait.
Merci d'être venu préciser les éléments dont vous disposez sur la base de cette plainte. Vous nous disiez donc qu'une enquête pourrait être rapidement déclenchée, ouverture d'une information judiciaire prochainement, puisque vous portez partie civile et que c'est dans ces cas-là automatique. Merci Maître Daoud d'être venu ce matin sur RMC. Vous êtes l'avocat de la Ligue des droits de l'homme et de l'association Utopia 56. Il est 7h17.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et à 7h40, le gouvernement qui promet de changer la vie des chefs d'entreprise, d'alléger leur charge mentale, moins de paperasse, plus de formulaires à remplir. Peut-on vraiment mettre fin à l'enfer de l'administration ? C'est la promesse de Bruno Le Maire qui présente son projet de loi ce matin. Le ministre de l'économie qui juge que cela va booster la croissance et l'emploi. Qu'en pensent les patrons ? La réponse de la CPME, ce sera à 7h40. Avant cela, c'est le 7h20 d'Apolline Matin. Avec Amélie Rosic pour RMC s'engage avec vous, avec Manu Le Chypre et avec Arnaud Demange qui pirate le face à face. À tout de suite.
Apolline Matin.
Les indiscrets RMC.
Et on se plonge dans les coulisses de l'actualité ce matin avec Romain Cluzel du service politique d'RMC. Bonjour Romain.
Bonjour Sébastien.
Peut-être le point final dans l'affaire Fillon. Aujourd'hui, la Cour de cassation doit dire si elle revient ou pas sur la condamnation de l'ancien Premier ministre dans l'affaire des emplois fictifs. Et 7 ans après, Romain, François Fillon est très discret, hein.
Et signe de cette grande discrétion, François Fillon ne laisse quasiment rien filtrer de sa nouvelle vie. Son cabinet de conseil, basé à Paris, est toujours en activité, mais ses prises de parole en public se comptent sur les doigts d'une main. La dernière date de novembre dernier, via l'association de soutien aux chrétiens d'Orient qu'il préside. À 70 ans, l'ancien Premier ministre voyage beaucoup, selon un de ses proches, mais reste très éloigné de la politique française. François Fillon a bien encore quelques contacts, par exemple avec son ancien ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, ou son ami de longue date, Bruno Retailleau, mais aussi Laurent Wauquiez qui aspire à être candidat en 2027. Avec eux, il parle d'actualité, de politique, sans aucune intention de revenir dans la sphère publique. Parce que 7 ans après, la cicatrice de cette campagne présidentielle dantesque reste vive. Dans son fief de Sablé-sur-Sarthe, le nouveau maire s'est fixé une règle, ne pas dire un mot concernant François Fillon. Et au sein de son ancienne famille politique, la rancune est tenace. Lorsqu'on évoque le nom de François Fillon, un ancien cadre de l'UMP nous répond « crapule ». Un autre parle de « serial killer » en référence à ces dizaines de députés de droite qui ont perdu leur siège en 2017. Mais ses défenseurs insistent, François Fillon reste le dernier candidat de droite à avoir obtenu 20% des voix à la présidentielle, avec un programme de lutte contre la dette et contre l'islamisme radical. Selon eux, il faut s'en inspirer pour que la droite rassemble à nouveau largement.
RMC, Apolline Matin, le 7h20.
Sébastien Krebs.
Le 7h20 avec toute l'équipe d'Apolline Matin autour de la table avec Amélie Rosic, avec Manu Le Chypre, avec Arnaud Demange. Bonjour à tous les trois.
Bonjour. Bonjour.
Et bienvenue, on commence par RMC s'engage avec vous. Amélie Rosic, on reparle ce matin de la SFAM. L'assureur, une affaire qu'on vous a révélée sur RMC, c'était déjà il y a plus de 2 ans.
Oui, la SFAM, aujourd'hui Indexia, n'a plus le droit de vendre de nouveaux contrats d'assurance, mais jusqu'à l'année dernière, l'entreprise assurait des dizaines de milliers de produits électroniques. Vous en avez peut-être déjà fait l'expérience en achetant un téléphone ou une tablette. Des contrats signés pour 15 ou 30 euros par mois qui coûtaient finalement jusqu'à 10 fois plus cher. Et ça continue, des auditeurs nous contactent régulièrement. Ils réclament évidemment un remboursement et ça sans succès. Désespérément, 150 d'entre eux ont manifesté devant le siège à Romans-sur-Isère dans la Drôme vendredi dernier, représentés par l'avocate Emma Leotti. Ils ont trouvé porte close. Tout le monde était en télétravail comme de par hasard ce jour-là. Des employés de la SFAM quand même ont été chargés de distribuer un document devant les locaux invitant les clients à envoyer leur réclamation avec la promesse d'une réponse avant hier soir. Promesse non tenue.
Et vous nous dites que ça pourrait bouger aujourd'hui.
Absolument, absolument, parce que la SFAM est assignée devant le tribunal de commerce de Paris par l'URSSAF. L'organisme réclame plus de 11 millions d'euros d'impayés de cotisations en tout genre. Si l'entreprise règle finalement sa dette, pas de conséquences à court terme. Et sinon,
si la SFAM n'arrive pas à payer, le tribunal peut ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Ça pourrait être dramatique pour mes clients. Ça veut dire qu'ils seront payés en tout dernier lieu, derrière l'État, derrière les salariés, derrière les fournisseurs.
Bah oui, parce qu'on déclare les créanciers et donc du coup évidemment les petits créanciers sont les derniers à être payés. Alors pour assurer ses arrières et surtout les intérêts des 600 clients qu'elle accompagne, l'avocate a engagé des procédures judiciaires contre trois autres entreprises. MMA, Axeria et la FNAC, ce sont en fait des partenaires commerciaux de l'ASFAM. Elle évalue le montant total du préjudice de ses clients à plus de 3 millions d'euros.
Et les clients, justement, et tous ces auditeurs qui nous ont contactés dans cette affaire, ils peuvent espérer quoi aujourd'hui?
Alors, Maître Emma Leotti a déjà obtenu 300 000 euros au total pour plusieurs clients de remboursement négocié à l'amiable et des actions judiciaires sont en cours. Deux procédures collectives au civil pour récupérer des dommages et intérêts et un procès pénal pour pratiques commerciales trompeuses qu'on attend et qui devait s'ouvrir récemment, qui va finalement s'ouvrir en septembre. De son côté, le groupe qu'on a évidemment sollicité nous informe qu'il conteste le montant des impayés à l'URSSAF, les 11 millions d'euros pour lesquels il est assigné aujourd'hui, et assure qu'une fois un accord trouvé, il réglera bien sa dette. On vérifiera tout ça, bien entendu. Quant à nous, depuis deux ans, on a aidé tout de même une dizaine d'auditeurs. C'est peu par rapport à tous ceux qui se plaignent, mais on fait ce qu'on peut. Et surtout, on continue d'insister pour tous les autres.
Et on ne referme pas ce dossier.
Ah non, malheureusement.
Et évidemment, avec le procès donc, qui arrive en septembre. Allez, on passe à l'écho. Manu, la fin des moteurs thermiques en 2035. C'est loin d'être gagné, hein. Même pas en rêve, dit la Cour des comptes européenne.
Oui, exactement. Hein. L'objectif de Bruxelles, rappelons-le, c'était zéro rejet de gaz à effet de serre pour les voitures neuves à partir de 2035. Eh bien, c'est extrêmement mal parti, nous dit la Cour des comptes européenne. D'abord, la plupart des voitures thermiques actuelles émettent toujours la même quantité de CO2 qu'il y a 12 ans, alors que les premières réglementations visant à réduire ces émissions sont entrées en vigueur précisément il y a 11 ans. Ensuite, le développement des carburants alternatifs, les biocarburants, carburants de synthèse, hydrogène, etc., est beaucoup trop lent et donc ces carburants ne seront jamais disponibles en quantité suffisante. Et puis surtout, le développement des véhicules électriques européens est lui aussi très en retard, avec une industrie des batteries à la traîne. Moins de 10% de la capacité de production mondiale des batteries électriques est basée en Europe, c'est 76%. En Chine.
Et alors la Cour des comptes européenne s'inquiète particulièrement de la dépendance européenne vis-à-vis du reste du monde.
Exactement, l'Europe importe 87% de son lithium d'Australie, 80% de son manganèse d'Afrique du Sud et du Gabon, 68% de son cobalt de la République démocratique du Congo et les accords commerciaux avec ces pays ne sont pas jugés satisfaisants pour sécuriser nos approvisionnements, nous dit la Cour européenne. Conclusion, l'avenir de la voiture électrique en Europe, ce sera inévitablement de la voiture électrique chinoise et c'est bien ce que montrent les difficultés de Tesla, obligé aujourd'hui de casser ses prix pour résister à la concurrence venue de Chine.
Bon, c'est pas gagné. Allez, Arnaud Demange.
Oui, c'est moi.
Bonjour Arnaud. Bonjour. L'invité du face-à-face ce matin, c'est Jean-Philippe Tanguy, le député de la Somme, numéro 2 du groupe RN à l'Assemblée nationale dans le face-à-face.
J'ai mis du tango pour Tanguy, c'est normal.
Ah, oui, voilà.
Jean-Philippe Tanguy, cadre du RN. Au RN, on marche sur l'eau en ce moment. Ils sont à plus de 30% dans les sondages pour les européennes. Et si en plus, tu rajoutes à ça les voix de Florian Philippot, pour l'extrême droite, ça fait quand même... Non, ça fait toujours 30%, parce que ça marche pas fort chez lui. En cas de succès, Marine Le Pen souhaite à nouveau imposer son idée de référendum sur l'immigration. Alors, un référendum équilibré et honnête dans la question. Êtes-vous pour l'immigration ou êtes-vous pour vous faire attaquer au couteau par un Afghan sans papier? C'est pas facile, hein. On parlera de la plainte contre Fabrice Leggeri, numéro 3 sur la liste RN aux européennes, pour son action, inaction envers les migrants lorsqu'il était à la tête de Frontex. Alors, à propos de migrants, le Parlement britannique a adopté un projet de loi sur l'expulsion de migrants vers le Rwanda. Pourtant, c'est un pays très woke, hein. Les Anglais, c'est le plus woke d'Europe. Ils sont tellement woke que leur reine, c'est un homme maintenant. Vous avez vu? Ça a changé. Ça a dû plaire au RN, ce truc. Tanguy va nous expliquer. Écoutez, les Anglais, bon, d'accord, ils ont brûlé Jeanne d'Arc, mais finalement, c'est pas des mauvais bougres, hein, on les aime bien. Enfin, c'est radical comme solution. Imaginez, les migrants, ils traversent tout le continent africain, puis la Méditerranée. Ensuite, ils essayent de survivre dans la jungle de Calais. Après, ils doivent traverser la Manche. Et là, on les renvoie au Rwanda, à 150 bornes du point de départ, alors qu'il suffisait juste de prendre un TER pour Kigali, finalement. 45 balles, c'était moins long et moins dangereux. Alors par contre, en échange, le texte prévoit qu'on verse beaucoup d'argent au Rwanda. Ça, c'est un truc qu'on pourrait pas faire en France. Je vois mal Bruno Le Maire aller négocier avec le Rwanda, ou la Syrie, ou l'Afghanistan.
Alors nous... On est un peu juste en ce moment, on a 30 euros.
Est-ce qu'on peut payer en trois fois nos 30 euros? Bref, rendez-vous avec Jean-Philippe Tanguy chez Neyla Latrousse à 8h30.
Et rendez-vous...
J'ai pas de jeu de mots sur Neyla Latrousse aujourd'hui.
Elle a adoré celui d'hier,
Et rendez-vous à 8h20.
À 8h20, dans une heure.
Demanche, la météo et le journal dans un instant. RMC 7h30.
RMC, Apolline Matin.
Toute l'actu, le journal Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Information RMC, un homme soupçonné d'avoir tué sa compagne a été remis en liberté par erreur. On vous explique tout dès le début de ce journal. Jeudi noir dans les aéroports français et menace sur le pont de l'Ascension. Les contrôleurs aériens maintiennent la pression. Et puis session rattrapage pour les clubs français engagés en Coupe d'Europe qui jouent leur 29e journée de Ligue 1 ce soir. Paris pourrait être sacré dès ce soir. Monaco et Lille vont se battre pour la deuxième place.
Un homme accusé de féminicide a donc été laissé dans la nature par la justice.
C'est une information qu'RMC vous révèle ce matin. Cette erreur commise par la cour d'appel de Mulhouse, dont les magistrats ont tout simplement oublié de statuer sur la détention provisoire d'un homme qui a tué sa compagne en août 2022 par arme à feu. Il est donc libre en attendant son procès, libre de mener sa vie, d'approcher des parties civiles et même de recommencer, qui sait, de quoi faire bondir la famille de la victime. Évidemment, témoignage RMC et explication signée Marion Dubreuil.
Brigitte Schneider a appris coup sur coup que la justice requalifiait le meurtre de sa sœur Sonia en homicide involontaire et que l'auteur présumé de ce coup de feu mortel était remis en liberté.
C'est pas possible, hein. Lui il a enlevé la vie de ma sœur, mais bon, lui il est en liberté. Mais je comprends pas que les juges, les greffiers, ils reprennent pas ça en main, le dossier. Là, cette semaine, ils devront déjà l'incarcérer tout de suite. On se demande encore si on peut avoir confiance à la justice.
Tout ça parce que la cour d'appel de Mulhouse a omis de statuer sur la détention provisoire du mis en examen et même son contrôle judiciaire, déplore l'avocat des parties civiles Fabien Raquelian.
Il y a 3 magistrats d'une cour d'appel qui n'ont pas été capables d'ouvrir un code de procédure pénale. À minima, on aurait pu quand même lui interdire de s'approcher des parties civiles. Aujourd'hui, il n'a même pas l'interdiction de détenir une arme, alors que les experts, notamment l'expert psychiatre, est venu parler le concernant d'une dangerosité criminologique.
La seule manière désormais pour la justice de rattraper cet oubli, c'est de juger ce dossier le plus rapidement possible. Le mis en examen encourt jusqu'à 5 ans de prison.
Les obsèques du jeune Philippe aujourd'hui à Grande-Synthe dans le Nord, près de 10 jours après la violente agression qu'il a subie en plein centre-ville, un guet-apens mortel pour lequel 2 mineurs ont été mis en examen et placés en détention provisoire. Un 3e est toujours en garde à vue. 7h33, la pagaille demain dans les aéroports français avec cette grève des contrôleurs aériens. 3 vols sur 4 seront annulés à l'aéroport d'Orly, 2/3 à Charles de Gaulle et à Marseille, et ça monte quasiment aussi haut à Toulouse et à Nice avec 60% d'annulation. Une grève qui pourrait se prolonger, hein, puisque le syndicat majoritaire a déposé un préavis pour le week-end de l'Ascension à partir du 9 mai prochain, à moins qu'un accord ne soit trouvé sur les salaires et sur l'organisation de travail. C'est tout l'enjeu. Jean-Baptiste nous l'a confirmé ce matin sur RMC. Il a contacté le 32-16 et ce contrôleur aérien qui ne fera pas grève a tenu à apporter son soutien à ses collègues grévistes.
Ils veulent changer, c'est l'organisation entière du travail du métier de contrôleur aérien. Qui certes forcément genre a des avantages si on regarde ne serait-ce que par rapport à combien les contrôleurs aériens sont payés et tout, évidemment ils sont bien payés, mais ça vient avec le travail, l'expérience et tout ce qui vient derrière, donc c'est pas donné aux commun des mortels.
La simplification pour les entreprises au menu du Conseil des ministres ce matin. Bruno Le Maire va présenter son plan pour en finir avec la paperasse inutile. Le ministre de l'économie qui veut notamment supprimer les formulaires CERFA pour les patrons et alléger d'une 40aine de lignes les bulletins de paye des salariés. Il est 7h35, les appels se multiplient en direction du Royaume-Uni après l'adoption hier du projet de loi très controversé qui va lui permettre d'expulser des demandeurs d'asile arrivés illégalement sur son sol, expulsion vers le Rwanda. Les premières démarreront d'ici 3 mois. Une honte nationale pour Amnesty International. L'ONU demande à Londres de reconsidérer son plan. Plan qui ne semble pas décourager les migrants que vous avez rencontrés à Paris, Romain Poiseau.
Cette année, Soltan, un Afghan, tentera la traversée vers l'Angleterre et inconcevable pour lui qu'il puisse être envoyé au Rwanda une fois arrivé sur place.
J'ai pris 7 mois pour venir en Europe. Ils nous mettent au Rwanda, ça c'est pas normal. Pourquoi tu m'as mettre là-bas ?
Parce que l'Angleterre a payé le Rwanda plus de 583 millions d'euros pour accueillir ces demandeurs d'asile arrivés illégalement sur son territoire. Mesure qui ne dissuadera pas Sabah, un Afghan, d'aller vivre en Angleterre.
Normal. Oui, normal, on veut tous vivre en Angleterre. Si des migrants voulaient venir dans mon pays, je les protégerais, j'analyserais leurs problèmes. Je ne les enverrais pas au Rwanda. En plus, je ne vois pas ce que je pourrais faire au Rwanda. Cette décision, ce n'est vraiment pas bon pour les droits de l'homme.
L'ONU a demandé au gouvernement britannique britannique de reconsidérer son plan, un plan honteux pour le fondateur de l'association d'aide aux migrants Utopia 56, Yann Manzi.
Ils sont prêts à tout, c'est donner de l'argent à des pays pour faire le sale boulot. On n'est pas tout à fait sûr du respect des droits fondamentaux dans ce pays. On craint le pire, éventuellement les renvois du Rwanda vers leur pays.
Des avions charters ont déjà été réservés. Les premiers vols pour le Rwanda partiront de Londres courant juillet.
7h36, il y a du foot ce soir. Rattrapage de la 29e journée de Ligue 1 pour les clubs engagés en Coupe d'Europe. Le PSG se déplace à Lorient à 19h et le club de la capitale pourrait être sacré champion de France dès ce soir, à condition que Monaco ne gagne pas son match contre Lille. Une bataille pour la 2e place en Ligue 1 entre l'actuel dauphin du PSG et les nordistes. 4e bataille aussi pour une qualification en Ligue des champions. Il y a de l'enjeu, Maxime Tilliette.
Oui, en cas de succès, l'ASM peut repousser à 4 journées de la fin Lille à 5 points. Le podium tend les bras à Adi Hütter, mais l'entraîneur monégasque ne veut pas crier victoire trop vite.
Oui, nous pouvons faire un grand pas face à Lille, mais ce n'est pas comme une finale, nous aurons encore 4 matchs à disputer. La saison ne sera pas terminée, nous pouvons faire un pas supplémentaire vers notre objectif, mais pas plus.
Cela fait 6 ans que la qualification en Ligue des Champions échappe au Monégasque. Le milieu Denis Zakaria veut remédier à cela.
Il y a pas mal de joueurs qui ne l'ont pas encore joué cette compétition, donc on a tout ça assez fin de Champions League et c'est clair que c'est notre objectif. Donc je ne dirais pas que ça nous rentre, mais au contraire, ça nous motive, on veut vraiment la jouer cette compétition.
Mais Monaco doit se méfier de Lille. Les joueurs de Paulo Fonseca restent sur 3 victoires en championnat et chassent cette 2e place.
Monaco est le 2e, mais une grande équipe et jouer à la maison, nous savons que ça sera un match très difficile. Mais nous avons ambition aussi de faire un bon match. Nous jouons pour gagner tout le match.
À l'aller, les Lillois avaient parfaitement contenu les Monégasques en s'imposant 2-0.
Monaco-Lille à 21h, tout comme Marseille-Nice, à suivre évidemment sur RMC après le match entre Lorient et le PSG à 19h.
Le quintet, c'est à 13h55 sur l'hippodrome de Cordemay.
Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Leur favori aujourd'hui, c'est le numéro 5, Y de Ceylan. Et l'outsider, c'est le numéro 2, Gold Star. La course du quintet à suivre en direct sur RMC Découverte.
C'était le journal d'Élise Dangean sur RMC et RMC Story. Beaucoup de réactions ce matin sur cette grève des contrôleurs aériens. Grosse pagaille attendue demain, les 3/4 des vols annulés à Paris-Orly, mais ça va toucher beaucoup d'aéroports, des grandes villes françaises. Vous avez entendu ce témoignage d'un contrôleur aérien dans le journal, et ça vous a fait réagir. Frédéric, vous avez composé le 32-16. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Ça vous a fait réagir d'entendre ce contrôleur aérien qui justifie la grève et qui soutient ses collègues?
Bah après qu'ils soutiennent ses collègues, je trouve ça normal, mais quand j'entends les arguments, oui, ça me fait doucement, on va dire, rigoler. Je suis ancien pompier de Paris, je faisais 72 heures de garde pour 1600 euros par mois. Je suis dans le privé maintenant en tant que consultant, je suis pompier volontaire en plus, donc je fais quasiment des gardes de 24 heures. Et c'est, on le fait par passion. J'ai l'impression que ces gens-là ont choisi leur métier, peut-être pour la paye, mais sans avoir trop de contraintes.
Ils se battent aussi pour conserver leurs conditions de travail. C'est ce qu'ils nous expliquaient. C'est vrai que c'est un métier difficile. Vous dites, mais il y en a d'autres, mais peut-être qu'ils n'ont pas le même pouvoir de nuisance.
C'est ça, c'est qu'il y en a plein d'autres. Il y en a plein qui sont comme eux en 3-8, mais c'est pas pour autant qu'ils vont faire grève. Ils ont choisi le métier, on leur a pas mis un couteau sous la gorge pour leur dire, vous allez faire ça, et puis tant pis pour vous. Ils l'ont quand même choisi. Ils le font par passion, ok, ils ont des responsabilités, mais ça fait partie de leur job, de leur paye, ils sont payés en conséquence, donc je trouve ça normal.
Mais Frédéric, c'est peut-être un peu le jeu aussi, chacun utilise ses armes, quoi. Ils ont l'arme de pouvoir bloquer les aéroports,
oui,
ils s'en servent.
Je suis d'accord, mais c'est le problème, c'est comme la SNCF, comme la RATP, ils font grève et après ils négocient, alors que normalement on devrait négocier d'abord, et si... En dernier recours, il n'y a vraiment pas d'avancée, et ben on fait grève. Mais il y a un moment, il faut arrêter. À chaque fois qu'on va être en week-end, en vacances, ou qu'il va y avoir quelque chose, il y a une grève quelque part. Donc c'est quand même... Il n'y a qu'en France que ça arrive, quoi.
On vous sent en colère, Frédéric, du côté de Rennes. Vous n'êtes pas le seul. Il y a beaucoup de messages ce matin sur l'application RMC. Beaucoup d'appels au 32-16. On continue d'en débattre. Vous continuez à réagir. Et à 8h10, on sera avec un ancien patron de compagnie aérienne, ce sera son parti pris de dire un peu comme vous Frédéric que les contrôleurs aériens en profitent un peu trop et vont un peu trop loin. Il est
7h40. RMC, 6h39.
Apolline Matin.
Moins de paperasse, moins de démarches, moins de formulaires, c'est plus d'emplois et plus de croissance. En tout cas, c'est ce que dit le gouvernement Bruno Le Maire. C'est son objectif avec ce projet de loi qu'il présente ce matin au Conseil des ministres. Projet de loi simplification. On va vous donner bien sûr les principales mesures et on va voir dans un instant si ça peut vraiment changer la vie des entreprises avec le président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, qui est mon invité sur RMC. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Vous êtes bien sur RMC et RMC Story, 7h44.
L'invité du jour.
Bonjour François Asselin.
Bonjour.
Bienvenue sur RMC, merci de nous rejoindre ce matin. Vous êtes le président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. On parle de la simplification ce matin, c'est le mot du jour, c'est l'objet de ce projet de loi qui est présenté en Conseil des ministres tout à l'heure par Bruno Le Maire et qui promet de vous faciliter la vie, à vous les chefs d'entreprise, avec moins de paperasse, avec moins de démarches, avec la suppression des formulaires inutiles. Vous y trouvez votre compte dans ce projet ?
Je vais essayer de pas faire de mauvais esprit, parce que sur le sujet de la simplification, on pourrait bien évidemment être plus que circonspect. Je crois que c'est la quatrième loi annoncée sur la simplification. On a connu du temps Hollande, vous savez, le fameux « en l'absence de réponse de l'administration, eh bien ça vaut acceptation ». Et derrière, il y a eu 1200 dérogations, si bien qu'après, c'était plus confus qu'avant.
Hein. Donc là, c'est connu plus simplifié comme simplification. Quoi.
Voilà. Alors là, par contre, il y a quand même une chose importante, c'est ce fameux test PME. C'est-à-dire que c'est un projet, le test PME, porté par la CPME depuis plus de 2 ans. Je me suis battu à Bruxelles, je me suis battu ici en France, pour pouvoir l'inscrire dans une loi. C'est tout simplement que, comme on n'arrive pas à endiguer le flot normatif, législatif, réglementaire, eh bien l'idée c'est de le filtrer. C'est-à-dire que si tout projet de loi, toute proposition de loi, eh bien on la soumettait à un test PME avant, bien évidemment, de passer au Parlement.
On l'expérimente dans
un certain nombre de PME. Exactement. Ça va au-delà de l'étude d'impact. C'est simplement répondre à la question, est-ce que ce projet de loi, eh bien, risque d'impacter négativement la vie de tous les jours d'une PME. Et si on s'aperçoit que c'est le cas, eh bien, on évite bien évidemment de promulguer cette loi.
Donc ça, c'est quelque chose que vous avez obtenu. Vous aviez formulé 80 propositions.
Nous avons formulé 80 propositions.
Et elles ont été retenues.
Et alors, parmi ces 80 propositions, cette proposition, qui est une proposition vraiment très importante, hein, parce qu'elle est structurelle, a été retenue. Et ça, c'est très important. Alors, bien sûr, maintenant, il va falloir surveiller le flux parlementaire, parce qu'on peut avoir des écueils pendant tout le passage parlementaire de ce projet de loi. Mais pour cette raison, eh bien, je veux y croire.
Alors, il y a un certain nombre de mesures. Je voudrais qu'on s'arrête sur la fiche de paye parce que ça concerne tout le monde, tous les salariés qui nous écoutent et tous les chefs d'entreprise. Cette fiche de paye qui est extrêmement compliquée, on n'y comprend rien avec toutes les petites lignes, elle va être simplifiée. On passerait de 55 à une quinzaine de lignes, donc beaucoup plus lisible. C'est facile à mettre en place pour les entreprises ou au final, ça va vous compliquer la vie?
Alors, vous savez que la complexité de la fiche de paye, elle est due tout simplement à la complexité de notre droit du travail et de l'organisation du système social de notre pays. C'est pour ça qu'on est obligé d'inscrire un tas d'éléments qui sont obligatoires par la loi et par les règlements. Simplifier la fiche de paye, oui, c'est bien pour les salariés, mais ça ne changera en rien la difficulté pour l'entreprise d'éditer cette fiche de paye. Pourquoi ? Parce que vous regarderez derrière, vous aurez derrière toujours la même organisation sociale, la même organisation du droit du travail qui fait que de toute façon...
Les mêmes cotisations multiples.
Exactement. Ouais. Si par exemple, on devait chacun payer une facture à toutes les caisses auxquelles on cotise sur la fiche de paye, le salarié devrait payer tous les mois 11 factures et l'employeur, le patron, 18 factures. C'est pour vous dire la complexité de tout cela. Donc, pour le salarié, simplifier la fiche de paye en présentation, oui, c'est une bonne chose. Pour l'entreprise, ça sera toujours aussi compliqué. Et je dirais même que la modification de votre logiciel de paye, le nouveau paramétrage, ne sera pas gratuit.
Ah oui, il va falloir que vous changiez, que vous mettiez à jour.
Une fois de plus, voilà, changer notre logiciel de paye.
Donc ça, pour le coup, ça vous crée des démarches. Alors, quelque chose qui peut peut-être vous changer la vie, pour le coup, c'est le nombre de paperasses qui va disparaître et la promesse de supprimer tous les fameux formulaires CERFA. On dit souvent que c'est un peu symbole de l'enfer de l'administration.
Vous savez, je parle de mémoire, je crois qu'il y a plus de 1240 formulaires CERFA divers et variés.
Ah, ça, c'est du temps que vous allez gagner?
C'est du temps que nous espérons gagner. Pourquoi? Parce que l'idée derrière tout cela, c'est de créer un coffre-fort électronique où dans ce coffre-fort électronique, une bonne fois pour toutes, vous mettez vos documents administratifs qui concernent votre activité, votre entreprise, et ceux qui ont besoin, les sachants, qui ont besoin d'aller chercher ces documents, eh bien, ils auront une clé électronique pour accéder en toute confidentialité à vos données numériques de l'entreprise. Ça éviterait effectivement de remplir je ne sais combien de fois par semaine des formulaires CERFA.
C'est pour qui ? C'est pour l'URSSAF ? C'est pour...
Alors, ça peut être tout à fait pour l'URSSAF. Ça peut être lorsque vous répondez à un marché public, eh bien, le donneur d'ordre public pour aller puiser les documents administratifs qui concernent votre entreprise. Parce que si vous répondez dans la semaine à 3 appels d'ordre public, 3 fois de suite, vous devrez remettre vos documents, sans compter les mises à jour. Bref, oui, ça peut simplifier la vie des entreprises.
Alors,
oui.
Le grand argument de Bruno Le Maire dit que ça va enlever de la charge mentale aux chefs d'entreprise et à la fin, ce sera plus d'emplois, ce sera plus de croissance. Vous y croyez, ce choc de simplification, il peut rebooster comme ça l'activité, ça peut marcher ?
Je veux y croire, mais je veux y croire. Hein. C'est, donc je pose un acte volontaire. Bien évidemment, la charge mentale des entreprises et des entrepreneurs est énorme. Et vous savez, ne serait-ce que la pénalisation du chef d'entreprise, elle est catastrophique dans le pays. Quand vous êtes à votre compte et que vous avez des salariés, vous avez immédiatement plus de 60 incriminations pénales spécifiques. La déclaration de bénéficiaire est effective. C'est un document que vous pouvez remplir pour le donner à un registre si vous avez une société avec un capital pour donner le nom de vos actionnaires. Nous sommes le seul pays en Europe où si jamais vous ne remplissez pas ce document, c'est une feuille A4, hein, eh bien vous risquez 7000 euros d'amende et 6 mois d'emprisonnement. Vous voyez un petit peu comment les entrepreneurs de ce pays sont traités. Eh bien oui, on aimerait lever la charge mentale parce que entreprendre, eh bien c'est très important. La victoire économique de la France, c'est la victoire économique des PME et des TPE. C'est 98% des entreprises dans notre pays. Donc on a besoin de gens qui savent prendre des risques.
Et le gouvernement veut faire une loi par an, hein, continuer à chaque printemps, dit Bruno Le Maire, à refaire une loi pour simplifier encore d'autres démarches. Vous dites, il y a encore du travail, il y aura encore d'autres étapes.
Bah écoutez, j'ai hâte de grandir alors, hein, si tous les ans ça se simplifie, voilà, c'est une bonne nouvelle.
Merci d'être venu ce matin sur RMC, on voit que vous espérez des résultats, mais bon, vous attendez de voir quand même, si je
nous
comprends
bien. Nous sommes des pragmatiques,
bien, oui. François Asselin, merci d'être venu, merci. Président de la CPME, Confédération des petites et moyennes entreprises. 7h50.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, c'est Nicolas Poincaré. Expliquez-nous.
Et je vous explique pourquoi la guerre à Gaza est en train de mettre le feu aux facs américaines.
A tout de suite.
Apolline Matin.
Le bonus RMC.
Le bonus de Martin Bourdin avec la sortie aujourd'hui du biopic sur Amy Winehouse.
Et oui, l'histoire de cette voix si particulière racontée donc dans un film 13 ans déjà après la mort d'Amy Winehouse à seulement 27 ans après une overdose. Le film s'appelle Back to Black, comme le deuxième album de la chanteuse britannique, et ce n'est évidemment pas un hasard puisque le film se concentre sur la sortie de ce disque-là grâce auquel Amy Winehouse a remporté 5 Grammy Awards. On va se concentrer sur ce qui a inspiré la chanteuse quand elle a écrit ce disque, et notamment sur une histoire d'amour destructrice, un destin tragique entre amour, musique et addiction, interprétée par Marisa Abela, dont la performance est saluée par tous les spécialistes. En tout cas, la ressemblance entre l'actrice et la chanteuse est frappante, avec ce look pin-up, ce large trait d'eyeliner aussi, évidemment. Vous pourrez donc découvrir tout ça dès aujourd'hui au cinéma dans Back to Black.
N'écris pas des chansons pour être célèbre. J'écris des chansons parce que je veux transformer le mal en bien.
RMC, Apolline Matin.
7h54 sur RMC, c'est l'heure de Nicolas Poincaré.
Expliquez-nous.
Expliquez-nous, Nicolas Poincaré. Aux États-Unis, les débats sur Gaza provoquent de fortes tensions dans les universités. Des violences ont eu lieu sur le campus de la fac de Columbia à New York. Joe Biden est intervenu pour dénoncer des manifestations antisémites.
Oui, dans les universités américaines, le mouvement de soutien aux Palestiniens n'a cessé de prendre de l'ampleur depuis le 7 octobre. Mais depuis une semaine, il a pris une toute autre tournure à Columbia. Columbia, c'est une des plus prestigieuses et une des plus anciennes universités des États-Unis. Elle est située au cœur de New York, à Manhattan. Elle a formé 103 prix Nobel. C'est une fierté américaine. Mais depuis lundi, eh bien, Columbia est fermée et gardée par la police.
Comment est-ce qu'on en est arrivé là ?
Alors, tout a commencé mercredi dernier. C'est Le Monde qui le raconte. La présidente de Columbia, qui est une économiste d'origine égyptienne, a été interrogée à Washington par une commission du Congrès qui enquête sur le wokisme dans les universités, c'est-à-dire sur la question de savoir si les facs sont d'extrême gauche. C'est devant cette commission d'enquête, souvenez-vous, que trois présidentes de grandes universités s'étaient véritablement noyées en décembre dernier en refusant de condamner d'éventuels appels au meurtre contre les juifs. Ne voulant pas se faire piéger comme ses collègues en décembre, la présidente de Columbia s'est donc montrée très prudente et elle s'est par exemple félicitée d'avoir sanctionné un professeur qui avait défendu le Hamas. Et ce sont ces propos qui ont donc été jugés pro-israélien par une partie des étudiants qui ont mis le feu aux poudres. Mercredi soir, des étudiants ont créé un camp de tente au cœur du campus. Ils ont décidé de dormir sur place. La présidente a demandé à la police d'intervenir, ce qui n'était pas arrivé depuis 25 ans. Et de fait, la police a évacué les campeurs et arrêté plus d'une centaine d'étudiants qui vont maintenant passer devant un conseil de discipline. Mais depuis, le calme n'est pas revenu. Au contraire, le nombre de tentes a encore augmenté. Le campus est toujours occupé, ce qui a conduit à la fermeture de la fac et à l'arrêt des cours en présentiel.
Ce mouvement d'occupation a aussi été marqué par des propos antisémites.
Oui, c'est ce qui choque dans cette affaire, parce que New York accueille une large communauté juive. C'est même New York la plus grande ville juive du monde, devant Tel Aviv. Des étudiants juifs représentent 15% des effectifs de la fac de Columbia. Certains soutiennent activement le mouvement de solidarité avec les Palestiniens, mais d'autres se sentent en insécurité. Samedi, un drapeau israélien a été brûlé, un étudiant juif a reçu des pierres, un professeur juif a été prié de quitter le campus parce que sa sécurité ne pouvait pas être assurée. Une pancarte a dessiné des étudiants juifs comme les prochaines cibles du Hamas. C'est l'accumulation de ces incidents qui a conduit Joe Biden à intervenir et à dénoncer l'antisémitisme flagrant de ces manifestations. D'autant que l'Université de Columbia n'est pas un cas isolé. À Yale aussi, une soixantaine d'étudiants ont été arrêtés pour occupation illégale et des manifestations pro-palestiniennes ont entraîné des tensions dans de très nombreux campus à travers le pays.
Et c'est vrai que les images de ces facs américaines sont assez édifiantes, assez impressionnantes. Tout ça ressemble quand même un peu à ce qui se passe d'un autre niveau, mais à ce qui se passe en France, à Sciences Po.
Oui, on se souvient qu'à la mi-mars, une étudiante avait affirmé n'avoir pas pu rentrer dans un amphi où se tenait une réunion sur la Palestine parce qu'elle était juive, disait-elle, ce qui avait été contesté par les organisateurs. Mais on se souvient que Gabriel Attal s'était quand même aussitôt rendu sur place pour assister à un conseil d'administration, ce qui était absolument sans précédent. Alors depuis, les meetings contre la guerre à Gaza se sont multipliés à Sciences Po. Dimanche, il y a eu des incidents devant l'école entre des groupes d'extrême gauche et d'autres d'extrême droite. Lundi, il y avait beaucoup de monde pour assister à une venue de Jean-Luc Mélenchon qui tenait une conférence sur la Palestine. Bref, la Palestine est l'objet d'une mobilisation étudiante comme on n'en avait pas vu depuis très longtemps à Paris comme à New York.
Nicolas Poincaré, expliquez-nous, à retrouver tous les jours en podcast sur rmc.fr. Dans un instant, la météo très fraîche encore ce matin de Géraldine Demory, puis le journal de 8h avec à la une cette grève massive attendue demain dans les aéroports. On va vous donner toutes les prévisions. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.